Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Sous Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Elles sont nombreuses, variées, hormonales ou mécaniques, temporaires ou définitives. Des méthodes contraceptives, il en existe pour tous les moments de la vie sexuelle. L'accès à ces méthodes pour éviter des grossesses non désirées a un impact direct sur la santé des femmes. Prévenir les grossesses précoces et les avortements clandestins, espacer les naissances et choisir de concevoir ou non un bébé, le bon moment pour accueillir un enfant. Cet accès reste conditionné par de nombreux facteurs géographiques, culturels, religieux, financiers. Les pouvoirs publics ont un rôle central à jouer en informant la communauté au travers de lois et du niveau de prise en charge. La contraception, c'est l'affaire de tous, mais dans les faits, cela reste le plus souvent l'affaire des femmes. Demandez autour de vous de citer des contraceptifs, on vous répondra stérilet, pilule, implant, diaphragme. Et jusque sur le site officiel dédié à la contraception en France, il recense 13 méthodes de contraception féminine contre seulement 3 pour vous, messieurs. Choisir la contraception qui convient le mieux, appelez-nous pour poser vos questions au 33 84 22 75 75. Avec nous en studio pour répondre aux questions des auditrices et des auditeurs de Priorité Santé, docteur Lorraine Métraud-Mantelet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes praticien hospitalier au sein de l'unité de gynécologie médicale à l'hôpital Port-Royal à Paris. Tout à l'heure, on va retrouver en ligne du Sénégal le docteur Abdoulaye Diop, gynécologue obstétricien, médecin-chef à la clinique Nest à Dakar au Sénégal. Et puis en fin d'émission, nous retrouverons un reportage signé David Baché, David de retour du sud du Niger, de la zone de Maradi, où s'est déclaré fin juillet une épidémie de choléra.
Priorité santé sur RFI.
Journée mondiale de la contraception, méthode anticonceptionnelle, l'accès à ces moyens pour prévenir les grossesses non désirées, avec un premier point très général pour fixer bien les choses, docteur Lorraine Métraud-Mantelet. Dans quelle mesure l'accès à la contraception constitue un atout pour la santé des femmes?
Alors c'est un atout majeur pour maîtriser sa fertilité, puisqu'effectivement on sait qu'une femme qui a une contraception efficace, a priori n'aura pas recours à une interruption volontaire de grossesse. Donc ça c'est un premier point important. Et on sait que dans certaines circonstances, l'interruption volontaire de grossesse peut être compliquée d'infection, de saignement. Donc vraiment pour sa santé, avoir une contraception efficace c'est un point important. Et puis on sait également que espacer les grossesses et donc pouvoir avoir une contraception efficace, notamment juste après avoir accouché, ça permet de limiter en fait la morbidité materno-fœtale. Donc c'est également fondamental de pouvoir avoir une contraception efficace dans ce contexte précis.
Ça veut dire des mamans en bonne santé, des bébés en meilleure santé aussi, éviter par exemple l'arrivée trop précoce des bébés, éviter des infections, éviter que des jeunes filles trop jeunes aussi dans certaines régions du monde, partout d'ailleurs dans le monde, ne tombent enceintes.
Exactement.
Avec aussi des détresses d'ordre psychologique à la clé.
Parfaitement, oui, tout à fait.
Alors, cet accès peut varier considérablement en fonction du contexte, du lieu où on vit, de la famille, de la religion et même de l'époque. Petit retour en arrière tout de suite grâce aux archives de l'INA pour entendre la voix de l'auteur de la loi Neuwirth, qui il y a plus de 50 ans a autorisé la contraception orale, la pilule, monsieur pilule, loi de 67. Mais la France, en fait, a attendu plus de 5 ans avant de publier les textes, les décrets qui ont permis de créer des établissements de planning familial. Lucien Neuwirth, alors député promoteur de cette contraception et aussi de l'éducation à la contraception, ça va de pair.
Nous nous sommes heurtés pour l'application de cette loi à un état d'esprit conservateur, rétrograde, je dirais aussi un manque de clairvoyance, de discernement et peut-être de générosité. On a placé les femmes, les couples, devant l'alternative accouchement-avortement sans leur expliquer, sans leur indiquer qu'il y avait autre chose. On n'a fait aucune éducation sexuelle. Vous-même, vous avez fait, comme moi-même, de l'auto-information. On a découvert les vérités de la vie au hasard de ce qu'on glanait sous les préaux des écoles ou dans les bureaux. Tout ça n'est pas sérieux. Je viens de voir le Premier ministre et j'ai rencontré en lui un homme ouvert à ses problèmes et je crois pas être trop optimiste en estimant que très prochainement l'arrêté qui permet enfin l'agrément des centres d'information et de consultation sera signé Donc que ces centres seront agréés et puis surtout que les moyens d'une information très large, considérable dont on a besoin, vont pouvoir être mis en place à travers, avec l'aide des associations, quelle que soit leur tendance confessionnelle ou laïque.
Alors ces propos de Lucien Neuwirth en 1972, ils sont toujours d'actualité. Il y a bien sûr l'accès aux produits, docteur Lorraine Métro-Mantelet, mais il y a aussi l'accès à l'information. Pas de contraception efficace sans éducation à la santé, sans choix éclairé. Et il faut que les femmes qui se posent des questions, eh bien elles aient toutes les réponses à ces questions.
Exactement, et il y a probablement un manque d'information, notamment chez les jeunes. Alors c'est vrai que dans les collèges et les lycées, il y a parfois des passages d'infirmiers, de sages-femmes qui viennent faire un peu d'éducation. Mais il y a probablement, dans cette tranche d'âge en particulier, un effort à faire. Alors, il me semble que va être proposé auprès des étudiants en médecine, en fait, un service national. Et il devrait, pendant 6 semaines, soit à mi-temps, à plein temps, pardon, ou 3 mois à plein temps, justement exercer ses rôles de prévention dans les écoles et dans les lycées pour pouvoir promouvoir, en fait, les informations et l'accès à la contraception.
Alors, depuis cette loi de 67, on parle de la France, la loi Neuwirth. L'offre de méthodes s'est beaucoup élargie. Docteur Lorraine Métro-Mantelet, aujourd'hui, c'est quoi les méthodes de contraception privilégiées pour les Françaises?
Alors, il y a eu...
Femmes qui vivent en France.
Alors, pour les femmes qui vivent en France, il y a eu les données du baromètre santé 2016 qui ont été publiées, qui en fait donnent une idée de l'utilisation des contraceptions en France chez les femmes de 15 à 45 ans. C'était plus de 4000 femmes. Et en 2016, il y avait tout de même encore 36% des femmes qui utilisaient une contraception hormonale, donc la pilule. Ensuite, c'était le stérilet, le dispositif intra-utérin, et puis les préservatifs. Donc, il y a 7 femmes sur 10 qui utilisent une contraception en France entre 15 et 49 ans, donc il n'y a pas eu finalement de baisse de recours à la contraception, mais il y a eu des changements probablement un peu dans les habitudes avec l'utilisation de moins de contraception hormonale et le recours à davantage de dispositifs intra-utérins, de stérilets ou des préservatifs.
Alors on parle de schéma contraceptif, c'est l'histoire de cette contraception. Qu'est-ce qu'on prend à tel moment de la vie, docteur Métro-Mantelet? Est-ce que ça change ça justement?
Ça n'a pas tant changé que ça finalement. Au début de la vie sexuelle, les femmes, les jeunes filles continuent à utiliser les préservatifs, puisque même si il y a eu plusieurs campagnes là de resensibilisation aux infections sexuellement transmissibles, puisque aujourd'hui en 2018 visiblement il y a un certain nombre de femmes ou de jeunes femmes qui ont oublié ou ne savent pas exactement ce que peuvent être ces infections, mais globalement quand même le préservatif reste utilisé chez les jeunes femmes. Ensuite, avant leur première grossesse, elles utilisent une contraception hormonale et puis souvent après le dispositif intra-utérin.
Alors, on va tout de suite donner la parole aux auditrices et aux auditeurs de Priorité Santé. Notre première auditrice, elle est en ligne du Gabon de Libreville et c'est Sabrina. Bonjour Sabrina.
Bonjour Caroline.
On vous écoute Sabrina.
Alors, j'ai un souci sur le choix des contraceptifs à utiliser. Il y a la pilule, il y a des injections et il y a le stérilet. Sauf que de ces trois méthodes-là, autour de moi, ça a causé des troubles du cycle menstruel. Vraiment de mes proches. J'ai une belle-sœur, elle n'a carrément plus de règles. Et chez l'autre, elle voit ses règles plusieurs fois dans le mois. Et avec le stérilet, ça a causé un saignement abondant. Du coup, avec toutes ces idées reçues, j'ai du mal à choisir une méthode de contraception, vu que je ne peux plus avoir d'enfant d'ici au moins 6 ans. Et ça me coince.
Avant de donner la parole au docteur Métro-Mantelet, j'ai une question à vous poser, Sabrina. Est-ce que vous en avez parlé directement à un gynécologue de tout ce questionnement?
Oui.
Et est-ce que vous n'avez pas eu de réponse satisfaisante à votre goût?
Non, pas du tout.
Docteur Métro-Mantelet, qu'est-ce que vous pouvez dire à Sabrina, notamment toutes ces informations qu'elle reçoit de son entourage? Moi, j'ai vécu ci, moi, j'ai vécu ça.
Alors, pour rassurer Sabrina, il faut déjà lui dire que les effets secondaires d'une contraception chez sa sœur, chez sa belle-sœur, ne sont pas forcément ceux qui vont survenir chez elle. Ensuite, il faudra probablement voir avec Sabrina si elle a effectivement des règles abondantes initialement, parce que dans ces cas-là, un stérilet au cuivre ne sera pas forcément indiqué chez elle, puisqu'il pourra augmenter l'abondance des règles. Ensuite, si effectivement pour Sabrina, il est important d'avoir des règles, il ne faudra pas lui proposer une contraception qui bloque ses règles. Pour plein de raisons, parfois, des femmes veulent avoir des règles, et c'est quelque chose, je pense, qu'il faut absolument respecter, aborder avant de prescrire une contraception. Et puis, puis, il faudra lui demander si elle souhaite plutôt prendre un comprimé tous les jours ou si elle souhaite plutôt avoir une contraception de longue durée d'action qui ne la contraindra pas à prendre effectivement tous les jours quelque chose. Et là, dans ces cas-là, l'implant qui contient des petites doses d'hormones ou un stérilet aux hormones peut être une bonne chose. Il faudra réévaluer en fait vraiment avec elle de manière spécifique.
Si par exemple, je vous posais une question, hein, vous pouvez bien sûr ne pas y répondre parce que ça relève de l'intime. Sur l'abondance de vos règles, vous pourriez parler du stérilet à votre gynécologue?
Le stérilet, j'ai pas, ça ne me dit pas.
Ça ne vous dit pas.
J'ai envie d'opter pour l'implant. Mm-hmm. Sauf que je ne sais pas exactement s'il existe dans mon pays. Je n'ai pas la bonne information. Je ne suis pas informée dessus. On ne nous parle que de la pilule, du vaccin et du stérilet.
Alors, d'autres méthodes, mais je pense que si vous allez voir un gynécologue auprès d'un centre de santé, auprès d'un hôpital, il pourra très certainement vous parler d'implants, qui est une méthode assez commune. Elle est posée, comment ça se passe, avec une petite anesthésie locale?
Alors, c'est une petite anesthésie locale et on fait une toute petite incision et on pose l'implant à la face interne du bras. L'avantage, effectivement, c'est que c'est une méthode de longue durée d'action pour 3 ans, mais il risque de supprimer les règles. C'est le seul bémol, du coup, que j'aurais si jamais Sabrina souhaite avoir des règles.
Mais en tout cas, Sabrina, vous avez déjà apparemment votre avis sur la question pour ce qui est le mieux pour vous. Et c'est vraiment cela dont vous devez parler avec votre médecin lorsque vous irez en consultation.
D'accord.
Merci à vous. Très bonne journée à Libreville. On va tout de suite donner la parole à Anna, qui est à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Bonjour Anna.
Bonjour Caroline.
On vous écoute Anna.
Ma question est la suivante. Le stérilet a-t-il un effet abortif?
Vous êtes vous-même sous stérilet?
Oui, oui.
Et ça vous pose un problème, je dirais, plutôt au niveau de votre corps ou au niveau des conceptions que cela engage pour vous de vos croyances ou de vos valeurs?
Non, non. En fait, jusque-là, je n'ai aucun problème avec le stérilet, mais je voulais savoir s'il est abortif ou pas.
Alors, votre réponse, docteur Lorraine Métro-Mantelet.
Alors, le stérilet, qu'il soit aux hormones ou au cuivre, hein, je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne, mais c'est un petit dispositif qu'on place à l'intérieur de l'utérus. Donc, il a un effet mécanique. C'est vrai que du coup, notamment le stérilet au cuivre, il faut être honnête, n'empêche pas la fécondation, mais empêche ensuite l'anidation de toutes petites cellules microscopiques. Donc, je ne pense pas qu'on puisse considérer qu'il ait un effet abortif.
Mais en tout cas, la cellule est déjà fécondée. La cellule est fécondée, oui. Mais elle ne peut pas s'installer
tout
et grandir.
Fait. Exactement.
Voilà, Anna, cette réponse. Est-ce que ça vous va? Est-ce que c'est clair pour vous? Ça veut dire que c'est avant la croissance de la cellule, mais la cellule, il y a déjà eu cette rencontre entre l'élément
le
masculin et l'élément féminin.
D'accord, ça vous va.
Très bonne journée à vous, Anna. Très bonne journée à Kinshasa. On va partir pour le Togo, pour Lomé, où c'est Ismaël qui est en ligne. Bonjour Ismaël, votre épouse est à vos côtés, Amdia. Quelle est votre question, Ismaël?
Ok, bonjour Caroline.
Bonjour.
Bonjour docteur.
Bonjour.
Bon, en fait, mon épouse, nous avons un enfant de 9 mois. Mm-hmm. Et nous envisageons utiliser un moyen de contraception.
J'ai une
question. Alors, ma question est de savoir quel est le meilleur moyen de contraception à utiliser.
Docteur Métro-Mantelet, cette question d'Ismaël, un bébé de 9 mois, l'envie d'espacer les naissances, qu'est-ce que vous lui conseilleriez?
Alors, tout dépend si on parle en termes de fiabilité des contraceptions. Les contraceptions les plus fiables sont les contraceptions de longue durée d'action, donc l'implant ou le stérilet. Mais ensuite, la contraception, je dirais la meilleure, c'est celle qui va être adaptée à la compagne, à la femme d'Ismaël. Donc, il faudra pouvoir lui expliquer les différentes alternatives possibles chez elle et puis qu'elle puisse choisir. Donc, est-ce qu'elle souhaite prendre un comprimé tous les jours et dans ces cas-là une pilule hormonale? Est-ce qu'elle souhaite plutôt ne pas prendre tous les jours quelque chose et dans ces cas-là plutôt lui proposer un implant ou effectivement un dispositif intra-utérin, qui sont les 3 méthodes de contraception les plus fiables.
Mais sur l'implant, une fois qu'il est posé, il n'a pas un effet qui reste une fois qu'on l'a ôté du bras ou ça s'arrête immédiatement?
Non. La délivrance des hormones contenues dans l'implant s'arrête.
S'arrête. Donc c'est un peu comme si on arrêtait la pilule.
Exactement.
Et ça peut être au cycle suivant, il peut y avoir une grossesse.
Il peut y avoir une reprise, une ovulation et une fécondation, oui.
La meilleure chose, Ismaël, vous allez certainement, votre épouse va aller consulter un gynécologue, elle pourra exposer avec lui ses attentes et justement dire comment elle veut envisager cette contraception, si elle est prête justement, comme on le disait, à prendre un cachet tous les soirs. C'est pas toujours évident hein, de ne pas l'oublier lorsqu'on veut vraiment espacer les naissances. Il faut être sérieux avec ça. Donc vous pourrez poser toutes ces questions sur le meilleur choix. Donc consulter une sage-femme, une infirmière ou bien sûr un gynécologue à Togo. Au Togo, à Lomé, dans la capitale.
D'accord, merci beaucoup. Mais s'il vous plaît.
Oui.
J'ai une autre question.
Allez-y, je vous en prie.
Moi, je voudrais savoir, le poids de la personne peut-il être pris en compte dans le choix du moyen de la contraception?
Par exemple, s'il y a un surpoids de la part de votre femme?
Oui.
Et actuellement, elle est en état de surpoids après l'accouchement, après 9 mois après l'accouchement?
Oui, bon, mais elle a un léger surpoids.
Si c'est un léger surpoids, il ne faut pas qu'elle s'inquiète. C'est vraiment en cas d'obésité que là, on devra réévaluer les choses.
D'accord, merci beaucoup. Ben, s'il vous plaît, une dernière question, si vous pouvez me permettre.
Je vous permets cette dernière question.
D'accord, je voudrais savoir si... Bon, une femme qui ne va pas ses règles, c'est-à-dire qu'actuellement, depuis qu'elle a accouché, elle ne va pas ses règles, mais est-ce qu'elle peut tomber enceinte du coup?
Est-ce que votre épouse allait être le bébé?
Oui, elle est le bébé.
Docteur Métro-Mantelet.
Alors, tout dépend si l'allaitement est exclusif. Si c'est un allaitement maternel exclusif, on peut considérer que dans les 6 mois qui suivent l'accouchement, effectivement, l'allaitement peut être effectivement contraceptif. Mais si c'est un allaitement qui n'est pas exclusif, dans ces cas-là, il peut y avoir tout à fait une reprise des ovulations. Et puis, visiblement, elle a repris des cycles, votre compagne. Donc, du coup, a priori, elle peut avoir des ovulations.
Vous donnez autre chose au bébé? Vous avez déjà diversifié son alimentation à 9 mois?
Oui, on a déjà commencé depuis qu'il avait 6 mois.
Donc, il faut qu'elle ait une contraception efficace.
Ce n'est pas parce que les règles ne sont pas là qu'elle ne peut pas forcément tomber enceinte.
D'accord, merci beaucoup.
Très bonne journée à vous, Ismaïl. Très bonne journée à Lomé. On va prendre en ligne Virginie. Virginie au Cameroun, à Yaoundé. Bonjour, Virginie.
Oui, bonjour, Caroline.
On écoute votre question.
Oui. Étant donné que le taux de fertilité chez la femme baisse lorsqu'elle avance en âge. Ma question est la suivante. Est-ce qu'une femme devrait continuer à prendre des contraceptifs jusqu'à la ménopause?
Docteur Lorraine Métro-Mantelet, c'est une question que peuvent se poser des femmes. Par exemple, des femmes qui avaient par exemple un désir d'enfant longtemps et puis rien ne venait. Est-ce qu'il faut attendre que cette ménopause ait été posée, on va dire, par le médecin pour arrêter une contraception? Est-ce qu'il y a toujours un risque de grossesse, une possibilité de grossesse?
Alors, il existe une possibilité de grossesse jusqu'à l'âge de la ménopause. Alors, il est vrai qu'à partir de 38 ans, la réserve ovarienne, c'est-à-dire le nombre de petits follicules, de petits œufs dans les ovaires, diminue à la fois en quantité et en qualité, mais c'est variable chez d'une femme à l'autre. Hein. Ça peut être à 35 ans chez une femme, à 45 ans chez une autre. En tout cas, on sait que il y a une augmentation du nombre des IVG en France après 40 ans, donc probablement parce que les femmes n'ont pas conscience qu'elles peuvent être à nouveau enceintes, ou bien parfois aussi inconsciemment, elles veulent tester leur fertilité. Il faut continuer à utiliser une contraception entre 40 et 50 ans si on ne veut pas de grossesse non désirée.
Voilà Virginie pour cette réponse. Vous avez d'autres questions ou c'était suffisamment clair?
Non, c'était la seule question. Merci beaucoup.
Merci à vous. Très bonne journée à Yaoundé. On part pour le Burkina, pour Ouagadougou. On retrouve Sophie. Bonjour Sophie.
Oui, bonjour.
On vous écoute. C'est à la fois une question et peut-être surtout de votre part un témoignage. On vous écoute.
Oui, moi, c'est plutôt un témoignage que je voulais aborder parce que je m'occupe d'une association qui accueille les jeunes femmes, les jeunes filles mères, en fait, ou les jeunes femmes qui tombent enceintes mineures et qui souvent sont rejetées par leur famille. Lorsqu'elles tombent enceintes hors mariage, les familles sont souvent... rejette la jeune femme, quoi. Donc on les accueille et on constate, nous le constat qu'on fait par rapport à la contraception et à l'information qu'elles en ont, que ces jeunes femmes ont de la contraception, c'est qu'elle est quasi inexistante. Elles ne savent souvent même pas comment elles sont tombées enceintes. Enfin, elles sont étonnées elles-mêmes d'être tombées enceintes. Souvent, ce sont des jeunes femmes qui arrivent de villages. Dans les villes comme Ouagadougou, par exemple, l'information est beaucoup plus diffusée et les jeunes femmes savent quand même parler de contraception et s'en servir. Mais dans les villages, parler de la contraception, c'est tabou. C'est vraiment un sujet qui n'est pas abordé.
Votre association, elle a justement les moyens d'aller dans ces villages, aller faire de l'information de terrain jusque...
Malheureusement, non. Nous sommes connus pour accueillir ces jeunes femmes, mais pour l'instant, nous n'avons pas les fonds pour effectivement aller diffuser dans l'information.
En tout cas,
nous le faisons au niveau des femmes qu'on recueille, évidemment. Mais non, on n'a pas ce type d'action-là, malheureusement, pour manque de moyens.
En tout cas, on comprend bien l'utilité de cette information à la contraception, puisque tout à l'heure, on parlait des conséquences sanitaires en termes infectieux, par exemple, en termes de stérilité ultérieure due à ces infections, même en termes de charge mentale, de complexité à assumer tout ça. Mais on voit aussi exclusion familiale, c'est un véritable problème. Ces grossesses précoces qui sont directement liées au déficit d'information sur la contraception. Docteur Lorraine Métraud-Mantelet, on disait là, problème en milieu rural. Est-ce qu'il y a aussi une approche, on va dire, sociale, certains milieux qui sont moins bien informés que d'autres, ce qui peut se voir aussi d'ailleurs en France?
Oui, très, très, très certainement. Ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'en France, on a la chance d'avoir accès, en fait, mais pour ça, il faut que les jeunes filles soient informées, à une contraception, une consultation gratuite à partir de l'âge de 15 ans, qui est soumise au secret, bien sûr, pour les jeunes filles. Et donc, si elles ont la notion que cette consultation peut avoir lieu, elles peuvent aller réclamer des informations si elles n'ont pas été, effectivement, faites dans les écoles. Parce que finalement, je pense que tout va se jouer dans les écoles. Et il y a un vrai travail à faire là-dessus, au collège et au lycée, pour pouvoir promouvoir cette information sur la contraception.
Merci en tout cas, Sophie, pour ce témoignage de Ouagadougou. On va partir pour Garoua, pour le Nord, Cameroun, où on rejoint Asta. Bonjour Asta.
Bonjour.
On vous écoute.
Moi, ma question, c'est de savoir si le fait de prendre la pilule du lendemain de façon continue, si ça peut causer une stérilité ou alors un dérèglement hormonal à long terme. Et aussi, je voulais savoir si on peut prendre la pilule du lendemain, je sais pas, plusieurs fois par jour ou plusieurs fois par mois.
J'ai une question, Asta. Pourquoi vous parlez de pilule du lendemain tous les jours? Dans ce cas-là, pourquoi ne pas prendre tout simplement la pilule?
La pilule, on oublie, comme vous avez dit. Donc, si je prends aujourd'hui à 16h, demain, si j'oublie à 16h, voilà, ça ne sert plus à rien. Donc.
D'accord. Docteur Lorraine Métraud-Mantelet, qu'est-ce que vous pouvez répondre à Asta? Pilule du lendemain tous les jours, voire plusieurs fois par jour, je pense que la réponse va être claire.
Donc si Asta, effectivement, aujourd'hui doit prendre plusieurs fois par mois ou par jour la contraception du lendemain, il faut lui proposer une contraception de longue durée d'action. Et donc dans son contexte, un implant ou un dispositif intra-utérin à stériliser me paraît être la bonne alternative. Après, sur les questions de stérilité à long terme, non, il n'y a pas de risque d'infertilité à long terme si elle utilise la contraception d'urgence. Mais la contraception d'urgence, il faut l'utiliser à bon escient ponctuellement. Donc je pense que là, il faut peut-être probablement revoir la manière dont elle va pouvoir avoir une contraception efficace.
Asta, vous avez les moyens justement de consulter un gynécologue pour qu'il vous prescrive une contraception qui soit plus adaptée justement pour éviter d'avoir cette contraception d'urgence au jour le jour?
Le problème, c'est que j'avais déjà utilisé un implant. Mais à chaque fois que j'avais des règles, ça faisait peut-être 2-3 semaines, donc je ne pouvais pas. Du coup, voilà quoi.
Vous l'avez gardé combien de temps, votre implant?
Je sais pas, un an peut-être.
Donc en un an, vous aviez des règles tous les jours, effectivement, quasiment?
Oui, à chaque fois que ça venait, ça durait trop longtemps.
Donc probablement, effectivement, comme il y a un certain nombre de petites proportions de femmes qui supportent pas l'implant, elle a bien fait de l'enlever, mais il faudrait pouvoir lui proposer autre chose d'efficace.
Voilà, Asta, donc consulter, hein, aller en parler à un gynécologue, justement, votre difficulté avec la contraception, puisque vous avez déjà dû renoncer à ce mode de contraceptif, et éventuellement explorer pour voir s'il y a d'autres pistes qui sont davantage adaptées à votre physiologie. Très bonne journée à vous, à Garoua, au Cameroun. On va prendre en ligne Caroline, qui est à Parakou, au Bénin. Bonjour Caroline.
Bonjour Purité Santé.
On vous écoute.
Oui, ma question est simple. J'aimerais savoir si La contraception est vraiment le moyen le plus fiable. Est-ce qu'on ne court pas de risques en les utilisant?
Votre question, elle porte sur justement le moyen d'empêcher une grossesse ou sur les effets secondaires?
D'empêcher une grossesse et aussi sur les effets secondaires.
Les deux, d'accord. Alors, vous-même, vous avez quoi comme moyen de contraception?
Moi, j'ai le stérilet.
Et vous avez des inquiétudes par rapport à ce mode de contraception?
Je pense bien. Au fait, avant, je prenais les pilules. Mmh. Mais ça ne marchait pas du tout. J'ai dû changer puisque ça déréglait les règles. Soit les règles étaient trop beaux. Ça passait plus que les jours normaux, mais j'ai dû changer. Ma gynéco m'a proposé le stérilet. Et je l'ai placé, mais j'ai toujours peur. Bon, là, je n'ai pas de problème concernant les règles, mais je me dis, est-ce que c'est vraiment fiable? Est-ce que du jour au lendemain, je ne vais pas tomber enceinte ou quoi? Je ne sais pas.
Docteur Lorraine Métro-Montelet, Caroline inquiète sur la fiabilité de son contraceptif. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Alors, le stérilet fait partie des moyens contraceptifs les plus fiables. Donc, on peut rassurer Caroline. Il faut également être honnête, aucun moyen contraceptif n'a une fiabilité de 100%. Mais parmi les méthodes contraceptives les plus fiables, le stérilet en fait partie. S'il a été bien placé et que il n'y a pas de souci de tolérance, elle peut parfaitement garder cette contraception.
Caroline, est-ce que vous êtes rassurée? Du moins, vous pouvez aussi retourner en parler avec votre gynécologue, hein, si vous avez des inquiétudes. En même temps, ce que vous nous dites, c'est que tout se passe bien, non?
Oui, tout se passe bien. Au fait, c'est elle qui m'a proposé cela. Sinon, avant, je prenais la pilule. Quand je lui ai expliqué, elle a dit non, que ça ne va pas avec mon organisme, que je dois changer. Et elle m'a proposé le stérilet. C'est elle qui me l'a placé. Mais depuis que je l'ai placé, il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de perturbations de règles. Ça va. Mais côté grossesse, j'en doute. Je ne sais pas. Comme vous venez de le dire.
Rassurez-vous, hein. Rassurez-vous.
Rassurez-vous. Ça vous rassure, alors.
Ça vous rassure. Eh ben, très bonne journée, Caroline, à vous. À Paracourt, on va prendre un homme, hein, pour conclure cet échange avec nos auditeurs. Cet homme, c'est Claude qui est en ligne. Bonjour, Claude.
Ah, bonjour, Caroline. Bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
On écoute votre question. Vous êtes à Bukavu, hein, dans l'est de la RDC. On vous écoute.
Oui. Alors, ma question libérée, celle-ci. Bon, pour moi, j'aimerais juste savoir, est-ce que s'il n'y a pas le pilule aussi réservé pour les hommes? Parce que je pose cette question, parce que ici au Congo, et ici précisément à Bukavu, parce que un homme, s'il avait engrossé une fille, par exemple, c'est sur les hommes qui en subissent plus par rapport aux femmes. Mais là, je vois qu'ils mettaient de la contraception basée seulement aux femmes. Et je mérite juste aussi savoir s'il n'y a pas aussi les piliers réservés pour les hommes. J'ai deux questions. C'est ça la première. La deuxième question aussi, je mérite savoir si on peut conseiller à des filles célibataires, hein, à des filles célibataires de prendre des piliers.
Je ne comprends pas bien la deuxième question. Pourquoi voulez-vous conseiller à des filles célibataires? On ne conseille pas à des filles. On conseille, on discute avec sa partenaire, avec sa compagne, mais en général, on ne dit pas aux filles en général de prendre tel ou tel moyen de contraception. C'est un choix entre la femme et son médecin. De la femme d'abord.
Ah oui.
Alors on va répondre à votre première question, Claude. On va s'en tenir à votre question, la contraception masculine. Est-ce qu'il existe une pilule pour les hommes? Docteur Métro-Montelet, c'est tout à fait légitime. Comme question, on a parlé essentiellement depuis tout à l'heure de la contraception féminine. Qu'est-ce qu'il y a pour les hommes?
Déjà, je tiens à dire que c'est bien qu'un homme pose la question d'une contraception masculine, parce que c'est vrai que les hommes, en général, ne se sentent pas forcément tous concernés par la question. Donc, on peut dire à Claude qu'il pose une question pertinente. Après, c'est vrai que en contraception masculine, aujourd'hui, la méthode qui est la plus couramment proposée, c'est une intervention chirurgicale qui s'appelle la vasectomie, qui consiste en fait à aller entraver le passage des spermatozoïdes des testicules au niveau des canaux déférents. Bon, c'est un peu technique ce que je dis, mais c'est donc une contraception qui est plutôt définitive.
Mais quand j'entends la voix de Claude, quelque chose me dit qu'il est plutôt jeune, Claude. Claude, vous avez quel âge?
Moi, j'ai 24 ans.
Oui, 24 ans, la vasectomie, en général, voilà. Ce n'est pas à 24 ans qu'on la décide.
On ne proposera pas à Claude une vasectomie. Après, c'est vrai que le premier moyen de contraception masculine, il faut quand même le redire, hein, c'est le préservatif, qui a le double avantage à la fois quand il est bien utilisé d'empêcher la survenue d'une grossesse, même si l'efficacité n'est pas de 100%, il faut le dire. Il y a l'utilisation parfaite en théorie, et là, il permet d'éviter un certain nombre de grossesses, mais en pratique, avec les accidents de préservatif et les aléas, ça peut être un peu compliqué. Mais il a aussi comme principal intérêt de protéger des infections sexuellement transmissibles. Ensuite, pour ce qui est de la question d'une pilule contraceptive chez les hommes, ce qui est compliqué, c'est que du coup, si on diminue la spermatogénèse chez les hommes, on risque aussi d'avoir un impact sur les hormones masculines, qui sont importants pour leur libido, pour leur pilosité et pour tous les caractères sexuels masculins. Donc aujourd'hui, de manière courante commercialisée, il n'y a pas une pilule masculine efficace, idéale. Il y a plein de travaux en cours.
Il y a de la recherche.
Il y a de la recherche et c'est probablement un des enjeux majeurs de la contraception dans les prochaines années.
Donc aujourd'hui, Claude, la réponse, c'est le préservatif. Voilà ce qu'on peut vous dire aujourd'hui. Très bonne journée à vous, à bout qu'à vous, on va prendre, hein, j'avais dit le dernier, mais ce sera la dernière. C'est Mireille, elle est à Maroua au Cameroun. Bonjour Mireille.
Bonjour Caroline.
On vous écoute.
Ok, j'ai une préoccupation.
Oui.
En fait, j'allaite un bébé de 5 mois et j'ai accouché, ça fait 5 mois. Et 2 mois après l'accouchement, j'ai vu mes menstrues. Mmh. Et avant l'accouchement, je prenais des pilules.
Mmh.
J'ai envie de recommencer avec la pilule, mmh. mais je crains que cela ait des complications ou des effets sur ma santé et la santé de l'enfant. Mmh. Je ne sais pas, je demande conseil. Est-ce que c'est possible de continuer avec la pilule ou c'est mieux de trouver une autre méthode?
On va donner tout de suite la parole au docteur Métro Mantelet, mais je pense que de toute façon, vous devez aller voir une sage-femme ou un gynécologue pour en parler avec elle ou avec lui. Docteur Métro Mantelet, prendre la pilule quand on allait de son bébé, est-ce que ça pose un problème?
Alors non, ça pose pas de problème, mais c'est la pilule seulement à base de petites doses de progestatifs, pas la contraception œstroprogestative. C'est la pilule à base, donc c'est les microprogestatifs, mais ça, votre gynécologue ou votre sage-femme saura vous la prescrire. Ça ne compromet en rien votre allaitement, c'est-à-dire si vous voulez continuer à allaiter, c'est possible. Et les études qu'on a sur l'impact sur la santé des bébés sont tout à fait rassurantes, donc vous pouvez parfaitement reprendre une contraception peu dosée en progestatif.
Peu dosée, ça veut dire qu'il faut vraiment, par contre,
c'est
la prendre à heure fixe. Hein.
Alors, il y a plusieurs générations, il y en a qu'il faut prendre à heure fixe et les autres, on a un écart davantage tolérable.
Donc, pas de problème, hein, Mireille, pour cette contraception. Allez en parler à une sage-femme ou à votre gynécologue, et puis comme ça, il pourra vous donner le produit le mieux adapté, sans le moindre risque pour la santé de votre bébé. Voilà, très bonne journée à Maroua. Docteur Lorraine Métro-Mantelet, on va dans quelques instants partir pour le Sénégal. J'ai juste une question qui est liée à l'actualité en France, puisqu'il y a moins d'une semaine, l'Agence du médicament a annoncé la mise en place d'un numéro d'information, numéro vert, pour répondre aux questions sur l'androcure. Alors, il y a eu des études qui ont montré l'augmentation des risques de certaines tumeurs en cas de traitement long et à haute dose. L'androcure, c'est une hormone de synthèse, hein, c'est ça. Est-ce que c'est une pilule contraceptive?
Alors oui, il est utilisé essentiellement en France, il a l'autorisation de mise sur le marché dans les indications d'hyperandrogénie sévère, c'est-à-dire chez les patientes qui ont trop d'hormones masculines et qui ont donc une pilosité excessive. Il a une action antigonadotrope, c'est-à-dire qu'il met les ovaires au repos et donc il a une action effectivement contraceptive.
Alors, l'agence invite les patientes à consulter leur médecin, à évaluer l'intérêt de la poursuite du traitement. Est-ce que vous avez reçu des demandes en ce sens? C'est quoi les questions des femmes aujourd'hui, docteur Métro-Mantelet, sur l'androcure?
Donc, les patientes qui sont sous androcure et qui nous ont contactées demandent si elles doivent arrêter le traitement en urgence, demandent si il faut réaliser une IRM cérébrale systématique pour voir si, effectivement, elles ont un méningiome. C'est essentiellement les questions qu'elles nous posent.
Alors, on va donner le numéro vert. Je disais que la semaine dernière, il a été lancé ce numéro. Il est accessible en France gratuitement du lundi au vendredi. Il s'agit du 0805-04-01-10. Je répète, 0805-04-01-10. On part tout de suite pour le Sénégal.
Priorité santé sur RFI.
Ravi de vous retrouver en ligne, docteur Abdoulaye Diop, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes gynécologue obstétricien, médecin-chef à la clinique Nest à Dakar. Quelle proportion de femmes au Sénégal utilisent un mode contraceptif?
La contraception au Sénégal a fait un grand bond ces dernières années. En 2016, nous étions à 12% de prévalence contraceptive, en 2010 plutôt, alors qu'en 2016, nous sommes remontés officiellement à 21%. C'est dire un peu tous les efforts que le gouvernement a fait pour faciliter l'accès à la contraception à la population. L'objectif étant, en 2020, d'atteindre une couverture contraceptive de 45%.
Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, au Sénégal, la planification familiale, ce n'est plus un sujet tabou ?
Effectivement, la planification familiale n'est plus un sujet tabou au Sénégal. On en parle partout, on en parle dans les médias officiels, on en parle dans la rue, dans les radios, les réseaux sociaux. Donc il y a quand même l'accès à l'information au réseau, aux populations par rapport à la contraception est diffusé. Il reste cependant des difficultés d'accès à cette information dans certains milieux ruraux, comme l'ont dit un peu certains témoignages que j'ai entendus dans la première partie de l'émission, à l'instar de tous les pays sous-développés ou des pays africains. Mais il existe encore certaines zones rurales où l'accès à cette information de la contraception reste encore difficile, ainsi que l'accès même aux méthodes contraceptives.
Est-ce que vous pouvez évaluer, docteur Diop, sur le plan sanitaire, hein, l'impact des grossesses non désirées sur la santé, hein, sur la santé des femmes ?
Oui, l'impact des grossesses non désirées sur la santé des femmes au Sénégal et dans tous les pays sous-développés sont la première cause d'avortement clandestin. Nous savons que dans notre pays, malheureusement, la législation interdit l'avortement. L'avortement n'est autorisé que lorsque la poursuite de la grossesse met en danger la vie de la mère. Et donc, les femmes qui prennent des grossesses indésirées, soit parce que c'est dans le cadre hors mariage, ou bien parce qu'elles ont eu des grossesses trop rapprochées, ou bien pour n'importe quelle autre raison, n'ont pas légalement le droit de faire un avortement. Il s'en suit évidemment tout un cortège d'avortements clandestins avec les complications que ça peut entraîner, que ce soit des complications infectieuses, soit des complications hémorragiques, soit des complications même parfois d'ordre judiciaire, parce que lorsqu'on vous attrape en train de faire un avortement, vous pouvez risquer beau et aller en prison. Il y a aussi ces infanticides, ces milliers de femmes qui sont enfermées dans les prisons pour femmes à Dakar et dans les régions, qui ont été victimes d'infanticides, qui ont essayé de tuer ou qui ont tué leur enfant à la naissance parce que justement, elles ne voulaient pas de cet enfant et n'avaient pas pu avoir accès à cette contraception. Donc, tout échec de contraception ou bien tout non-accès à la contraception va entraîner des complications telles que des avortements clandestins indésirés ou bien des infanticides avec le cortège de complications que cela peut produire.
Merci infiniment, hein, docteur Abou.
14 000 décès par an.
Oui.
Excusez-moi, 14 000 décès par an, le nombre de femmes, justement, qui sont victimes de ces avortements clandestins dans le pays.
Merci beaucoup, docteur Abdoulaye Diop. Justement, vendredi dans Priorité Santé, une émission spéciale consacrée à la dépénalisation de l'avortement pour un état des lieux.
RFI à Dakar, 92 FM.
On vous retrouve, docteur Lorraine Métraud-Montelet. On évoque la contraception définitive. Est-ce que c'est un sujet tabou ?
Non, c'est pas un sujet tabou. Il y a de plus en plus de femmes qui souhaitent avoir recours à ce mode de contraception une fois le projet parental abouti. Ou parfois, dans certains cas, c'est les médecins qui vont le proposer quand il y a une contre-indication d'ordre médical à une grossesse. Aujourd'hui, en France, on n'a plus qu'une seule technique possible, alors qu'il y a encore un an, il y avait deux méthodes possibles. On pouvait avant, sans anesthésie générale, aller poser des petits ressorts dans les trompes, ce qui était donc une méthode assez rapide et finalement facile à proposer. Mais il y a eu des petits ressorts en nickel. Et il y a eu beaucoup d'allergies et de patientes qui ont eu des effets secondaires assez importants. Donc du coup, ce mode de contraception définitive n'est plus proposé et n'est plus commercialisé. Aujourd'hui, la seule alternative, c'est donc de faire une célioscopie sous anesthésie générale, de faire des petits trous dans le ventre et d'aller mettre des petits clips sur les trompes, en fait, de proposer une ligature des trompes, c'est-à-dire en fait de couper le passage possible ensuite d'un embryon pour qu'il aille ensuite s'implanter au niveau de l'utérus.
Une problématique tout à l'heure que nous a exposé notre auditeur Claude, hein. Comment agir, docteur Métraud-Montelet, pour que cette responsabilité de la contraception soit demain mieux partagée entre hommes et femmes? Où en est-ce qu'on bat? Il y a la recherche, il y a l'information, il y a la prise de conscience, ça se situe où précisément?
Je pense les trois. Nous, en tant que gynécologue ou sage-femme ou voilà toute personne qui est impliquée dans la planification des naissances et dans la contraception, doit informer en fait les couples. Alors c'est vrai que nous, on voit seulement les femmes en consultation, donc mais il faut leur faire passer ce message-là. Ça, c'est une première chose. Ensuite, c'est sûr que les progrès et des méthodes qui seront plus faciles d'accès et moins contraignantes seront probablement un accélérateur à l'accès à ce type de contraception. Si un jour on avait une pilule qui permettait effectivement, et même de longue durée d'action, qui permettait d'avoir une contraception masculine efficace. Et puis ensuite, probablement, effectivement, d'un point de vue général, en termes d'information globale, il faut que les hommes dans le couple se sentent concernés par ça. C'est une vraie question sociétale et une vraie question de couple. La contraception dans un couple, je pense que ça doit être quelque chose qui doit être discuté de manière claire et il ne doit pas y avoir de tabou. Ça doit être partagé.
Est-ce que ça change avec la nouvelle génération? Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes hommes ont plus de demandes de ce côté de copartage de cette responsabilité sur les grossesses?
On a l'impression, effectivement, on voit de plus en plus des adolescentes ou des jeunes filles arriver avec leurs copains et ils se posent tous les deux des questions. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire pour faire évoluer les mentalités.
Et aussi beaucoup de travail au niveau de la recherche, parce que pour l'instant, c'est balbutiant. Tout à l'heure, on disait préservatif. Sinon, en dehors de la vasectomie, il n'y a pas grand chose.
Il y a quelques méthodes. Il y a un slip chauffant qui est développé à Toulouse. Mais bon, voilà.
C'est le problème, balbutie. C'est quand on
parle. C'est pas très glamour.
Ça fait plutôt sourire. Et en plus, c'est très contraignant parce que je me suis renseignée. Il faut le porter quand même
voilà,
une grande partie
après,
de la journée.
Voilà. Donc, non, non, on n'a pas de méthode aujourd'hui à proposer.
Je m'excuse pour nos auditeurs en Afrique. Il fait déjà chaud. Si on a en plus un slip chauffant, la journée est très mal partie.
Il faut être honnête. Aujourd'hui, on pêche par probablement manque de moyens à proposer.
Merci beaucoup. Merci, docteur Lorraine Métro-Mantelet. On sourit, mais tout ça est quand même très sérieux. Je rappelle que vous êtes praticien hospitalier au sein de l'unité de gynécologie médicale à l'hôpital Port-Royal à Paris.
Priorité santé sur RFI.
On va parler à présent de l'épidémie de choléra au Niger. Plus de 2700 cas, au moins 55 morts recensés. C'est dans le sud du pays, à Maradi, que s'est rendu David Bachet. Sur place, centre de traitement du choléra, il y a ses tentes blanches. C'est là que le premier cas a été signalé. C'était le 4 juillet. Le malade provenait du Nigeria voisin, territoire déjà frappé par une épidémie. Ce camp est co-géré par les autorités sanitaires du Niger et par l'ONG Alima Befen. Reportage de David Bachet pour Priorité Santé.
Pour entrer dans le centre de traitement du choléra de Maradi, il faut se laver les mains à l'eau chlorée et désinfecter les semelles de ses chaussures. Le choléra se transmet très facilement. Contact avec la salive ou les excréments de personnes malades, ingestion d'eau ou d'aliments contaminés. Les symptômes sont des plus banals, diarrhée et vomissements. Dans l'attente des admissions, plusieurs personnes sont en observation. Un homme est transporté à toute vitesse sur une civière et sous le regard apeuré de deux enfants, examinés par le docteur Amidou Millet.
Il y a deux petits-enfants, Samaïla et Ahmed, 5 ans et 3 ans. C'est des frères et soeurs en fait.
Bonjour madame. La co-épouse de la maman.
Voilà.
Nana Fissa, merci d'accepter de nous répondre. Pourquoi est-ce que vous avez amené les deux enfants ici?
Je vais retourner à cause de diarrhée et vomissement. C'est ce matin encore qu'ils ont commencé à faire la diarrhée.
La diarrhée aqueuse.
Vous, docteur, qu'est-ce que vous dites de ce cas? Est-ce que vous pensez qu'ils ont le choléra? Est-ce qu'il est trop tôt pour le dire?
Là, nous allons voir. Sinon, pour l'instant, en tout cas, ils sont modérément déshydratés. Donc, on va les réhydrater. Nous attendons, voir si la diarrhée va se poursuivre.
À quelques pas, d'autres tentes, d'autres patients. Eux, c'est sûr, ont contracté le choléra. Allongée, à peine consciente et entièrement recouverte par un long voile qui lui cache même le visage, une malade reçoit les soins d'une infirmière.
C'est madame Abdullah Ramoutou, infirmière diplômée d'État. Oui, Sunanta. Karima. Karima Tachi. En même temps, on fait la réhydratation par le rangé lactate, en même temps, on donne le SRO pour réduire les sels et antibiotiques, la doxycycline.
Depuis combien de temps est-ce qu'elle est ici, cette patiente?
Depuis hier.
Et vous avez constaté une amélioration?
Oui, ça va vraiment. Son cas, ça va. Puisque le moment où elle était venue, vraiment, son état est un peu altéré.
Vous pensez qu'elle va rester ici encore longtemps?
Oui, peut-être jusqu'à demain matin, voire après demain. Avec le bonnet, ça va aller, Inch'Allah, on l'espère quand même.
Devant l'espace réservé aux convalescents, trois vieilles dames attendent en silence, assises sur une natte. À l'intérieur, une jeune femme affiche un large sourire.
Soueba. Chorin Dabakwe.
Elle s'appelle Soueba et elle a 27 ans.
Aujourd'hui,
ça lui fait 3 jours qu'elle est ici. Puis ce sont nous
heures.
Le début de l'histoire a commencé. En fait, elle avait mangé de la farine de manioc et elle avait du mal au ventre. Au début, elle pensait que c'était l'estomac. Mais là, une fois à la maison, c'est la diarrhée qui a commencé. Et à partir de ce moment, elle est partie au niveau de l'hôpital. Et c'est de l'hôpital, donc on l'a référée ici au niveau des centres. Et quand elle était venue ici, on ne savait même pas dans quel état elle était. Mais c'est après qu'elle a repris sa conscience, on lui a créé de la perfusion jusqu'à 11
euros.
Donc, quand vous êtes arrivé ici, vous ne saviez pas encore que vous aviez le choléra. Est-ce que vous saviez ce que c'était, que cette maladie, le choléra ?
Parce qu'Annie a le choléra.
Moi, qu'elle ne savait pas au début qu'elle avait le choléra. Quand on l'a amenée ici, maintenant, elle comprend c'est quoi le choléra, elle connaît les signes du choléra. Maintenant qu'elle n'a plus les selles très liquides, elle commence à comprendre qu'elle commence à guérir.
Comment est-ce que vous vous sentiez quand vous êtes arrivé ici et comment vous vous sentez maintenant ?
Quand elle était venue, ici elle était inconsciente. Pour elle, c'était même fini qu'elle allait mourir. Mais elle dit maintenant, Dieu merci, elle s'est remise et qu'elle arrive même à sortir voir qu'est-ce qui s'est passé dehors. Elle dit, elle remercie Dieu
possible.
Très bon rétablissement à vous. Soueba est tirée d'affaire. Bientôt, elle retournera vendre pagnes et parfums sur le marché de Yandaka, son quartier, à Maradi. Car le choléra se soigne très rapidement, à condition d'être prise en charge au plus vite. Or, les malades hésitent de plus en plus à consulter. Le docteur Ousmane Ousseini travaille au centre de traitement du choléra de Maradi.
Il y a des réticences à venir au centre. La preuve, c'est que beaucoup de patients viennent la nuit et tard. Parce qu'ils sont stigmatisés. Le fait de se reconnaître colérique, peut-être dans la communauté.
Colérique, c'est victime du choléra.
Du choléra. Fait en sorte que beaucoup de gens ne veulent pas les approcher. Il y a des patients même qui viennent ici sans accompagnant, parce que personne à la maison ne voudrait les accompagner. C'est pour cette raison que les gens, la journée qu'ils font leur diarrhée et vomissement, ils ne veulent pas déclarer, dire que ou venir au centre pour se faire traiter.
Et ça pose des problèmes pour leur prise en charge. C'est dangereux ?
C'est dangereux. C'est pour ça que nous avons des cas sévères, parce que les gens viennent tardivement au centre.
Or, il faudrait qu'ils viennent très vite.
Quand ils viennent très tôt, certains, ils font 24 heures. À la rigueur, 48 heures, ils ressortent guéris.
Parce qu'on peut mourir très vite lorsqu'on a attrapé le choléra ?
En 2 heures, 3 heures de temps, on peut mourir quand on attrape le choléra, sans prise en charge.
Ici, vous avez l'impression que on va vers une amélioration de la situation ou est-ce que vous avez plutôt l'impression que la maladie continue de se propager ?
La maladie continue de se propager. Hein. À la semaine 34, on était à une trentaine d'admissions. Et depuis hier on a fait 16 admissions. Aujourd'hui, du matin à maintenant, on a fait 13 admissions. Et les ambulances sont déjà parties chercher des malades. Donc les cas sont en train de se multiplier dans la communauté. Des zones qui n'étaient pas touchées auparavant ont maintenant des cas de choléra. Ces derniers jours, nous sommes en train de prendre en charge un nombre important de cas qui ne sont pas de notre zone.
Vous les acceptez quand même ?
Oui, on les accepte. On les accepte. La santé n'a pas de frontières, n'a pas de limites.
Et elle n'a pas de prix aussi ? Je crois que la prise en charge est gratuite.
Elle est gratuite ici. La prise en charge est gratuite dans tous les centres.
Mouvement de population important, accès à l'eau difficile, pluie encore abondante. Tous les ingrédients sont réunis pour que l'épidémie se poursuive. Des campagnes de sensibilisation sont menées pour inciter les habitants à bien se laver les mains et à consulter au plus vite en cas de doute. Malgré cela, la maladie s'est vite propagée à plusieurs régions voisines.
Reportage de David Bachet de retour de Maradi au Niger. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. Demain, nous parlerons du fardeau du passé. Comment s'en détacher pour se libérer de ses angoisses, se libérer de ses blessures d'enfance? On attend vos témoignages au 33 84 22 75 75. À demain.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.